Africa, le journal des auditeurs avec Nadir Djennad sur Africa Radio.
Bienvenue dans votre émission, le journal des auditeurs. La parole est à vous pendant 30 minutes sur Africa Radio. Aujourd'hui dans le JDA, le conflit libyen toujours dans l'impasse. Des roquettes ont été tirées hier en direction de l'aéroport de Mitiga, à quelques kilomètres à l'est de Tripoli, la capitale. Une nouvelle attaque qui brise la trêve temporaire négociée par l'ONU. À l'occasion de la fête de l'Aïd, toutes les forces en présence avaient accepté la demande des Nations Unies de déposer les armes pour deux jours. La trêve humanitaire devait s'étendre jusqu'à 15h ce lundi, mais l'arrêt des combats entre les troupes du maréchal Khalifa Haftar et les forces du gouvernement d'Union Nationale n'aura finalement duré que 24h. Nous en parlerons avec Michel Scarbonci, ancien député européen. Pour nous donner votre avis sur le sujet, posez des questions à notre invité. Appelez-nous maintenant au 33 1 55 07 58 00. Laissez-nous un message sur WhatsApp au 33 7 66 19 77 69. Mais avant de parler du conflit libyen, on écoute vos messages laissé sur le répondeur d'Africa Radio.
Africa. Vous êtes sur le répondeur d'Africa Radio. Après le bip, c'est à vous.
Oui, bonjour Afrique, Radio Africaine. Je vais reparler encore pour le Congo, où même les gens qui ne pouvaient pas parler commencent à parler, même les muets commencent à parler parce que ça se passe très mal au Congo. Ça pousse les gens à parler. Et certains Congolais ne comprennent pas que le pays est dans le chaos. Un président qui réellement était élu devait avoir la totalité du pouvoir. Mais M. Chilombo est au pouvoir depuis 7 mois. Il n'y avait pas de gouvernement, il y a maintenant le gouvernement qui est sorti, mais il n'occupe aucun ministère stratégique. C'est-à-dire aucun ministère qui est vraiment un ministère qui a la puissance du gouvernement. C'est-à-dire, d'abord, au Parlement, il n'est pas là. Ministère de l'Intérieur, il n'est pas là. Économie, il n'est pas là. La Défense, il n'est pas là. Intérêt, il n'est pas là. Mais comment pouvez-vous expliquer qu'un président élu, là où tout le monde crie que c'est le président le mieux élu de l'Afrique et du monde, il n'a pas le pouvoir? Comment est-ce que M. Tshisekedi dit, M. Chilombo, pas Tshisekedi? Parce que Tshisekedi, lui aussi, il avait foutu le chaos. Il a mis le chaos parce que lui, il travaillait aussi. C'était un manipulateur aussi. Il a trompé les gens.
Bonjour Nadir. Bonjour auditeurs d'Africa Radio. Bonjour l'Afrique. La situation politique en RDC, aujourd'hui, il faut que mes frères de la RDC, pas seulement je suis du Congo Brazzaville, c'est mes voisins vraiment immédiats, il faut qu'ils fassent très très attention en pensant que Joseph Kabila, en fait, en se focalisant sur Joseph Kabila tout le temps, que non, Joseph Kabila n'est plus là. Tout le monde entier sait qu'en RDC, il y a un président, peu importe la manière à laquelle il accède au pouvoir, c'est Félix Tshisekedi. C'est lui qui représente la RDC partout dans le monde entier. Donc, il faut que les gens regardent maintenant Félix Tshisekedi, comment est-ce qu'ils peuvent l'aider pour qu'il puisse apporter quelque chose à leur avenir. Parce qu'il ne faut pas que le temps passe pour rien. Et moi, je peux dire aujourd'hui, Joseph Kabila, on peut beau dire contre lui. Moi, je ne suis pas son ami, je ne suis pas son parent, je n'ai rien à gagner auprès de Kabila. Mais je sais une chose, Joseph Kabila, il a fait ce que les vieux politiciens aujourd'hui, les dirigeants africains, n'arrivent pas à faire. Parce que lui, il est encore jeune, il n'a même pas 50 ans. Mais il a accepté de dire, ok, d'accord, je pars. Et voilà, il a fait son truc, il est parti, il a laissé. Mais il peut bien rester là et puis faire tuer les Congolais. Ça, faut pas qu'on l'oublie. Il avait tous les pouvoirs pour tuer tout ce peuple et rester au pouvoir comme l'ont fait certains et continuer à le faire. Donc moi, je peux dire, il faut dire merci à lui aussi parce qu'il a évité vraiment une grave crise politique dans ce pays. Maintenant, il faut voir l'avenir, il faut regarder les choses, comment est-ce que ce peuple-là peut aider son président Félix Tshisekedi.
Bonjour amis auditeurs, bonjour les amis d'Africa Radio. Alors j'interviens ce matin pour préciser une chose. Je pense que la décision du président Ouattara de ne pas se prononcer en ce moment sur sa candidature a quelque chose à voir avec Laurent Gbagbo et Henri Konan-Bédié. Parce que ces deux personnalités n'ont pas encore dit réellement les intentions, s'ils veulent se présenter aux élections présidentielles ou pas. Alors, moi je suis parfaitement d'avis avec le président Ouattara de ne pas se prononcer en ce moment, parce que sachant très bien qu'en Afrique, il y a toujours des chasses aux sorcières. Alors, si le président Ouattara démissionne et qu'il dit qu'il ne se présentera pas aux élections présidentielles de 2020, et si c'est l'un de ces présidents-là, à l'occurrence Laurent Gbagbo ou Henri Konan-Bédié, reviendra au pouvoir, ça sera la catastrophe. Ils feront tout pour pourchasser tous les partisans du président Ouattara. On le sait. C'est pour cette raison que je suis parfaitement d'accord avec le président Ouattara de ne pas se prononcer. Si le président Ouattara doit arrêter la vie politique en Côte d'Ivoire, alors ces trois personnalités également, ces deux personnalités également, doivent arrêter également prendre les retraites politiques en Côte d'Ivoire pour laisser la place à une nouvelle génération, comme l'a dit le président Ouattara. Je vous remercie.
Bonjour les frères africains, particulièrement les frères ivoiriens et sœurs. Moi, je voulais vous demander, vous, la jeunesse ivoirienne, réfléchissez-vous, levez-vous, si vous êtes votre pays. Tout n'est pas à danser. Tout n'est pas à toujours danser, toujours dans la fête. Pensez à l'avenir de votre pays, de vos enfants. Pourquoi je dis ça? Parce que je vois les gens comme l'ancien président de la Côte d'Ivoire, M. Henri Konan-Bédié, qui va à la recherche, je ne sais pas, de paix ou bien, je ne sais pas ce qu'il est parti voir chez l'ancien président Laurent Gbagbo. Il était là, ce monsieur, ils l'ont envoyé au CPI, et finalement, un monsieur qui a quitté, il ne peut pas rentrer dans ce pays. Toi, monsieur Bédié, tu es là, tu n'as rien fait, rien. Maintenant, tu veux encore devenir président et tu cherches de l'allégement. Vous trouvez ça normal? Vous avez l'amour, l'avenir de votre pays dans votre tête? Moi, je voulais savoir. Je suis un Africain et ce qui se passe dans nos pays africains, ça m'agace. Ça me fait mal. Je dis, mais où va notre continent? Quand on voit les gens qui ont déjà 86 ans, 85 ans, qui veulent toujours diriger un pays, je voulais savoir s'il n'y a pas la jeunesse dans nos pays. Merci.
Bonjour Africa Radio. Bon, moi je voudrais dire à l'Africa Radio et les animateurs de l'émission, je voudrais dire qu'on ne doit pas avoir l'habitude de parler des mêmes pays qu'on entend tous les jours. On peut changer les choses, donc l'Afrique a 54 États, on peut changer les jours, des choses, des pays qu'on entend très peu. Moi je vais donner quatre exemples très rapidement. Le premier exemple, c'est le Libéria de M. George Weah, près de 2 ans après. Parce que ce monsieur, ce jeune a fait du tapage, il a bousculé les jeunes, parce que c'était un bon joueur, ce sportif. Bon, maintenant, où nous en sommes avec le Libéria de M. George Weah? Deuxième exemple, la Guinée équatoriale de M. Obiang Nguema et son fils. M. Obiang Nguema est le plus vieux chef de l'État africain au pouvoir, mais je reconnais en lui, que nous reconnaissons en lui, un monsieur qui a travaillé, qui a tout fait, qui a changé la Guinée équatoriale, qui fait honneur. Mais il y a une chose qu'on doit comprendre, que le pouvoir n'est pas royal. Et il n'est pas question automatiquement de changer de père au fils. Mais sinon, M. Obiang Nguema mérite le respect de tout ce qu'il a fait pour son pays. Sauf son fils qui ternit l'image de la Guinée équatoriale. Je veux parler encore de l'Angola, après de M. Dos Santos, sa fille la plus riche de l'Afrique, la sixième milliardaire dans le monde.
Africa. Prenez la parole dans le JDA sur Africa Radio.
Merci pour vos messages. Vous pouvez intervenir en direct dans le journal des auditeurs en nous appelant au 33 1 55 07 58 00, le 33 1 55 07 58 00. En Libye, le maréchal Khalifa Haftar a lancé le 4 avril dernier une offensive pour conquérir Tripoli, siège du gouvernement d'union nationale reconnu par la communauté internationale. Après plus de 4 mois d'affrontements meurtriers, les forces du maréchal stagnent aux abords de la capitale Tripoli. freinée par les forces loyales au GNA. À l'occasion de la fête de l'Aïd, toutes les forces en présence avaient accepté la demande de l'ONU de déposer les armes pour deux jours. La trêve humanitaire devait s'étendre jusqu'à 15 heures ce lundi, mais l'arrêt des combats n'aura finalement duré que 24 heures. Des roquettes ont été tirées hier en direction de l'aéroport de Mitidja, à quelques kilomètres à l'est de Tripoli. Pour en parler, nous avons en ligne Michel Scarbonci. Michel Scarbonci, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, merci beaucoup d'intervenir en direct dans le journal des auditeurs. Alors vous êtes ancien député européen, vous connaissez bien la Libye. Selon vous, pourquoi la trêve a été rompue et par qui ?
Je ne pense pas que ce soit l'armée nationale libyenne qui ait rompu la trêve. Mais de toute façon, il ne faut pas se faire d'illusions.
Vous voulez dire l'armée nationale libyenne du maréchal Haftar, hein ?
Oui. Oui. Il n'y aura pas de cessez-le-feu et ce conflit ne peut se terminer qu'avec soit la prise de Tripoli par le maréchal, soit par la défaite du maréchal. Oui. Donc, le maréchal contrôle 80% de la Libye.
Oui.
L'Est, le Sud, le Centre. Et pour réunifier le pays, il manquait que Tripoli et Misrata. Il s'est heurté dès le début aux brigades de Misrata, renforcées, encadrées par des officiers et sous-officiers turcs et par du matériel turc, oui, qatari, notamment des blindés et des drones, etc. Et donc cela, il n'avait pas prévu, oui, d'où la, oui, difficulté. En plus, le maréchal veut absolument éviter ce qui s'est passé dans d'autres conflits, notamment au proche Moyen-Orient, à savoir des pertes civiles.
Oui. Il y a quand même eu de nombreuses pertes civiles durant, depuis 4 avril.
Oui, mais oui. Vous remarquerez que sur les 1500 tués annoncés officiellement par l'ONU, oui, et les 3000 blessés, vous avez seulement 15% de civils. 15% de civils. Quand vous regardez les combats en Syrie, à Alep notamment, ou dans les grandes villes syriennes ou irakiennes, vous aviez 80% de civils.
Oui.
Voilà, donc le maréchal est obligé de progresser quartier par quartier, rue par rue, immeuble par immeuble, pour limiter les pertes civiles et les destructions dans Tripoli. Il n'est pas aux abords de Tripoli actuellement, il est dans Tripoli, il est dans les faubourgs de Tripoli.
Oui.
Il est seulement à 8 km du port, c'est tout. Oui. C'est, oui. Tripoli fait 40 km, 50 km de diamètre. Hein.
Oui. Mais cependant, Michel Scarbonci, hein, vous oui. dites, vous annoncez des chiffres, mais selon l'Organisation mondiale de la santé, il y a quand même plus de 100 000 déplacés, et eux, ce sont des civils.
Bien sûr, il y a des populations qui ont été déplacées.
Oui.
Il y a 200 000 enfants en danger de nutrition, etc. Mais ça, la question, ce n'est pas moi qu'il faut la poser, c'est à l'ONU.
Oui, oui.
C'est quand même l'ONU qui par le biais de M. Sarraj, le Premier ministre, qu'elle a mis en place contre l'avis trois fois du Parlement de Tobrouk. Hein, la seule institution élue de Libye depuis 2014, c'est l'Assemblée nationale libyenne. Trois fois, elle a refusé M. Sarraj, considérant qu'il n'était pas représentatif de l'ensemble des Libyens.
Oui.
Malgré cela, l'ONU a soutenu M. Sarraj. Elle lui a laissé organiser tous les trafics de migrants, d'esclaves, de drogue, d'essence, etc. La Tripolitaine est devenue en trois ans une zone mafieuse.
D'accord.
Suite de M. Sarraj.
Alors ce que vous dites, c'est le gouvernement d'Union nationale, reconnu par la communauté internationale, qui est responsable de cette crise.
Oui, mais il est reconnu par l'ONU, il n'est pas reconnu par le peuple libyen, puisque vous avez deux légitimités qui s'affrontent. M. Sarraj, c'est la légitimité onusienne,
oui,
et l'Assemblée nationale de Tobrouk, c'est la légitimité populaire.
Oui.
Donc, à un moment donné, la légitimité populaire, pour moi, dans une démocratie, est plus importante, même dans un pays en guerre, est plus importante que celle de l'ONU.
Alors, comment expliquer cette résistance donc, qui est plus forte que prévue de la part des forces du gouvernement d'Union nationale ? Vous avez parlé d'armement venant de pays étrangers, vous avez cité des pays comme le Qatar, comme la Turquie. Est-ce qu'il y a d'autres raisons aussi qui expliquent donc le fait que le maréchal Haftar stagne aux portes de Tripoli ?
Oui, il y a une raison simple, si vous voulez. C'est que Misrata et Tripoli sont les derniers bastions islamistes de Libye, du Maghreb et du Mashrek. Donc automatiquement, ils font tout pour sauver ce dernier bastion. Les frères musulmans ont été chassés en Égypte, ils ont été chassés en Tunisie, ils ont été chassés d'un peu partout, et leur dernier bastion, ce sont ces deux villes de Libye.
Oui.
Et donc, ils se battront jusqu'au bout, en utilisant d'ailleurs les populations civiles comme boucliers humains.
Oui.
Cela s'est produit très souvent là, depuis le début des combats.
Oui.
Et voilà une des raisons. La deuxième, c'est que la Turquie de M. Erdogan a mis de gros moyens à la disposition de Misrata. Oui. Que ce sont surtout les brigades de Misrata,
oui,
parfois composées de soldats turcs d'ailleurs, qui se battent contre le maréchal.
Restez avec nous, Michel Scarbonci, hein, je rappelle que vous êtes ancien député européen. Nous allons prendre Jomo qui souhaite réagir. Bonjour.
Bonjour, monsieur Nadir. Bonjour à votre invité.
Bonjour, Jomo. On vous écoute.
Je vais commencer par poser, par faire un cri de gueule, si vous me permettez de me donner la parole après.
Oui.
Je pense que de mémoire, c'est la deuxième fois que votre invité est invité sur notre radio africaine.
Oui.
Imaginez, avec Stéphanie pour la première fois et une deuxième fois,
oui,
avec vous.
Oui.
La première fois, j'ai dit qu'il ne faut pas faire l'apologie d'un coup d'État.
Oui.
Il ne faut pas faire l'apologie des pouvoirs illégitimes.
Oui.
Et aujourd'hui, ce monsieur, je pense que la deuxième fois, il est rentré encore dans ces mêmes polémiques.
Mm.
Moi, par respect pour...
Il donne son point de vue.
Je suis d'accord, d'accord.
Comme vous le donnez tout au long de l'antenne de vos interventions sur Africa Radio, Jomo. Allez-y.
Je suis d'accord avec vous, monsieur Nadi, mais je suis en train de dire que l'Afrique n'est plus acceptée de propagande,
oui,
de pouvoir illégitime, je suis en train de dire.
D'accord.
Il faudrait qu'on respecte les Africains et le peuple libyen.
D'accord.
Par respect pour le peuple et pour les auditeurs africains,
d'accord,
je ne parlerai pas aujourd'hui, mais je dirai toujours que ces invités sur notre radio, c'est fait de la propagande pour des pouvoirs illégitimes.
D'accord. Alors revenez donc au sujet. Vous dénoncez. Attendez, Michel Scarbonci, je termine avec Jomo. Donc vous dénoncez donc l'action qu'a menée le maréchal Khalifa Haftar. C'est ce que vous voulez dire?
Moi, j'ai dit toujours qu'il faut éviter le bain des sangs avant de prendre le pouvoir.
Mmh.
C'est pourquoi j'ai dit au Standard qu'il faudrait que l'ONU joue franc jeu.
Oui.
On ne peut pas monter de tout aux pièces un rebelle pour venir tuer un pouvoir que l'ONU,
oui,
a mis en place. Il,
oui,
faudrait que l'ONU mette les pouvoirs à la disposition du parti au pouvoir pour pouvoir combattre le maréchal.
Mmh.
Ou du moins, on arrête tout et on organise des élections.
Mmh.
Au lieu de que ce monsieur fasse toujours de la propagande pour le général Alta. Même s'il on lui a promis des postes de ministre ou des postes de premier ministère, moi je pense que c'est mieux de dire la vérité.
S'il vous plaît, Jomo, voilà, s'il vous plaît. Merci pour votre intervention, merci. Alors Michel Scarbonci, vous pouvez répondre.
Je vais répondre tout de suite.
Oui.
Si M. Jumbo connaissait bien la situation libyenne, il ne dirait pas ce qu'il est en train de dire.
Mmh.
D'abord, le maréchal Haftar a été désigné par l'Assemblée nationale de Tobrouk pour reconstituer l'armée nationale libyenne.
Oui.
Donc ce n'est pas un coup d'État. La seule entité démocratique de Libye, c'est l'Assemblée nationale libyenne. Elle a désigné le maréchal pour reconquérir et chasser les islamistes de Benghazi, de Derna, de Sirte. Et ensuite, voilà, il a lui complété la chose en lançant l'offensive sur Tripoli.
Mmh.
Ce monsieur devrait bien connaître la situation libyenne avant de prononcer les mots qu'il prononce.
Mmh. Très bien.
C'est l'ONU la fautive de la chienlit actuelle en Libye.
Oui, oui.
C'est elle qui, après la guerre absurde que la France a faite en 2011, a pris le dossier en main en 2014.
Mmh.
Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a imposé un homme inconnu, n'appartenant pas à une grande tribu, totalement inconnu, etc., n'ayant aucun charisme, aucune envergure, elle a pris le plus petit commun dénominateur pour le mettre en place.
Mmh.
Quand cet homme est arrivé à Tripoli, les milices islamistes qui tenaient la capitale lui ont mis le marché en main. Soit tu es avec nous, soit tu reprends le bateau tout de suite. Et l'ONU a laissé faire, et M. Sarraj, depuis cette date, tous les experts internationaux ou spécialistes de la région vous le confirmeront, les prisonniers des milices islamistes.
Mmh. Mais est-ce que vous pouvez comprendre
Ramadan,
oui.
À la fin du Ramadan, on a vu M. Sarraj faire la prière avec à ses côtés, à deux pas de lui, à ses côtés, l'un des principaux chefs terroristes recherchés au Proche et Moyen-Orient.
Mmh.
Et donc, il faut savoir où est la démocratie, il faut savoir où est la légitimité populaire. Et il faut savoir où est la...
Mais cependant, on peut comprendre quand même que les interrogations d'auditeurs concernant l'intervention du maréchal Haftar. On peut parler de tentative de coup d'État, effectivement, parce que c'est une action quand même qui est militaire. Il y a une volonté militaire de prendre le pouvoir par la violence. Est-ce que ça aurait pu être évité, justement, cette action militaire aurait pu être évitée?
Vous vous êtes posé la question quand les milices islamistes ont pris le pouvoir, alors que l'Assemblée nationale libyenne venait d'être élue, ont pris le pouvoir à Tripoli, ont chassé l'Assemblée nationale libyenne, ont tué, massacré, etc. Est-ce que vous vous êtes posé cette question? Non. Le maréchal a quitté Tripoli à ce moment-là. parce qu'il a compris que les islamistes prenaient le contrôle de la capitale contre le suffrage universel. Et il a été conquérir Benghazi contre ces mêmes islamistes. Il les a chassés de Benghazi. Il les a chassés de la Cyrénaïque. Il a conquis dans les mêmes conditions le faisant, le sud. Et partout, le maréchal a conquis les territoires libyens. Vous avez l'ordre et la sécurité.
Oui.
Voilà. Et par contre, la seule zone mafieuse, non démocratique, et pour ne pas dire autre chose, c'est la région de Tripoli et la région de Misrata. Ça, c'est un constat que n'importe quel observateur impartial peut faire. Voilà. Donc, le maréchal est décidé pour réunifier son pays et de mettre fin aux échecs des médiations de l'ONU qui durent depuis maintenant 7 ans.
Oui.
Ça fait 7 ans que la Libye est dans cette situation parce que les médiateurs de l'ONU ont été incapables d'imposer un accord politique.
D'accord.
C'est logique. Comment voulez-vous imposer un accord politique à des milices qui gagnent des millions de dollars avec les trafics en leur disant qu'elles doivent rentrer dans le droit chemin, dans la fonction publique libyenne ou dans l'armée libyenne?
Mais cependant,
euros par mois,
Michel Scarbonchi, cependant, le Premier ministre Fayez El-Sarraj est reçu par différents dirigeants européens. Il est quand même reconnu. Il a été reçu plusieurs fois par le président français Emmanuel Macron.
Oui, mais il a été reçu, il a fait une tournée en demandant le soutien des Européens pendant le conflit actuel.
Oui. Mais même avant cela, on se souvient que la France avait réuni à la fois Fayez El-Sarraj et le maréchal Haftar à la Seine-Saint-Cloud.
Bon exemple, la Seine-Saint-Cloud, les accords de la Seine-Saint-Cloud, qu'est-ce qui s'est passé? Le maréchal et El-Sarraj ont signé, et quand El-Sarraj est entré à Tripoli, les ministres lui ont dit, maintenant, si tu dénonces pas cet accord que tu as signé, tu reprends le bateau ou on te tue. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dénoncé l'accord. Mais parce qu'il est prisonnier des milices. Donc tout l'imbroglio libyen vient de là. L'ONU a mis en place un homme qui est prisonnier des milices. Et donc il est terrible de constater que sous l'égide de l'ONU, 650 000 migrants sont venus s'installer entre Tripoli et Misrata pour traverser la Méditerranée. Tout ça s'est fait sous l'égide de l'ONU, il faut le reconnaître.
D'accord.
Donc...
Restez avec nous.
Je veux mettre fin à ça, il a raison. Voilà, point.
Restez avec nous, Michel Scarbonchi. Nous avons en ligne Marcus. Marcus, bonjour.
Oui, bonjour Nadu, bonjour les invités, bonjour les auditeurs. Hein.
Bonjour.
Comme toujours, la question libyenne revient sur le devant de la scène.
Oui.
Mais j'ai du mal à comprendre l'analyse de Thomas Debain. C'est vrai, comme on dit, les choses ne sont pas acceptés dans la mesure où un coup d'État contre les populations n'est pas acceptable. Mais devant ce que je veux dire, qui est une abomination auquel est-ce qu'on peut dire que le choix libyen est mieux valable que le choix de tout un ensemble de populations? Je n'approuve pas non plus la guerre qui est menée par le général Haftar dans le sens qu'il veut conquérir le pouvoir, mais dans cette guerre qui se trouve en Libye, ce sont encore des populations d'origine négo-africaine qui est au centre de ce conflit aussi. Est-ce qu'il est normal qu'un gouvernement installé par les Nations Unies, auquel même la France fait partie de cette Nations Unies, qui apporte soutien au général et décidé au Premier ministre décidé par l'ONU, ou auquel on dit qu'il y a des femmes, de femmes humaines. Est-ce qu'on peut continuer à mettre en vie la vie des populations négo-africaines qui subissent le traumatisme inimaginable de cette guerre en Libye? Je crois que nous sommes tous conscients que la guerre, elle est mauvaise, que la démocratie doit se faire. Mais est-ce que la démocratie doit se faire dans un choix imposé par les Nations Unies au détriment de toute une nation? Je pense que le conflit libyen dépasse l'étonnement de l'humanité, de ce que nous sommes, les négo-africains, que font partie de cette humanité. Il est inconcevable qu'une telle guerre puisse se maintenir et qu'on n'arrive pas à faire un choix de dire pour assouplir la souffrance des gens, on fait un choix qui soit un peu pas bon, mais entre les deux, mais on ne met pas la vie des gens en danger comme on le fait aujourd'hui.
Très très bien.
Le profit libyen, ça déstabilise. Ça a déstabilisé le continent africain.
Très très bien, merci, merci, merci.
Si vraiment nous ne faisons pas un choix
d'accord.
dans notre vie, en tant qu'être humain, pour dire qu'on a le droit d'exister sur cette terre,
d'accord, Marcus.
Je ne pense pas que la démocratie, c'est comme on le veut, dans le sens de la démocratie n'est pas universelle.
Très bien, Marcus, merci pour votre intervention. Nous avons en ligne Kwame, Kwame, bonjour.
Oui, monsieur, bonjour.
Bonjour.
En fait, moi, j'interviens parce que cette situation de la Libye nous interpelle à plus d'un titre.
Oui.
Voilà, je savais que la Libye avait un État qui était dirigé par Muammar Kadhafi.
Oui.
Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Oui, on l'a traité de tous les noms, dictateur
oui.
et tout ça.
Oui.
Mais la Libye était quand même un pays bien structuré.
Oui.
Mmh. Oui. Et qui était une unité, comment dirais-je, politique, administrative, administrative et juridique.
Oui, oui.
Aujourd'hui, le chaos qui a été créé en Libye,
oui.
par des théoriciens comme, je ne sais pas, je vais peut-être vous mettre devant le fait accompli, un certain philosophe ici en France, qui est passé sur toutes les chaînes qu'on appelle
oui,
Bernard
oui,
Lévy,
oui, oui.
mais moi, mes fidèles,
oui.
voilà, qui a diabolisé ce régime.
Mmh.
À coup médiatique avec les chaînes françaises, comment dirais-je, les spécialistes, la France-Afrique,
oui,
tout ça.
Oui. D'accord.
Mais moi, je m'étonne qu'aujourd'hui, Africa Radio n'invite pas ce monsieur-là
oui.
pour que nous puissions lui poser des questions. Qu'est-ce qu'il
d'accord.
en pense aujourd'hui de ce chaos
mmh.
oui, provoqué par Sarkozy
d'accord.
en Libye?
Très bien. Ben c'est une suggestion. Voilà. Nous allons transmettre votre requête en haut lieu, comme on dit.
Bernard oui. Lévy.
Henri Lévy. Bernard-Henri Lévy. Oui.
Oui, il est très connu en France. Mais c'est comme voilà, notre continent n'est pas respecté. Il est allé même en Libye avec Sarkozy.
Oui.
Voilà.
Oui.
La télé,
oui.
comment dirais-je, toutes les télévisions
oui.
l'ont accompagné.
Oui.
Maintenant, votre invité qui est sur le plateau, moi, j'aimerais bien lui poser une question.
Allez-y, allez-y.
Oui. S'il y avait une comparaison à faire au temps de Kadhafi et le chaos créé aujourd'hui, des deux choses l'une, qu'est-ce qu'il choisirait ?
Merci beaucoup, Kwame, pour votre question, votre intervention ouais. et votre question. Alors, Michel Scarbonchi, hein, donc, que répondez-vous à Kwame ?
Ben, je vais lui répondre tout de suite. Il a posé une très bonne question. À l'époque de Kadhafi, la Libye était un des pays les plus modernes du continent africain.
Mmh.
Un des plus modernes du Maghreb et du Mashrek.
Oui.
Et c'est nous qui, par une guerre absurde, avons détruit tout cela.
Oui.
Et les conséquences de cette guerre, c'est que nous avons déstabilisé le Sahel, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale.
Oui.
Nous avons créé, à cause de nous, c'est créé un hub terroriste. À
oui.
cause de nous, c'est créé un hub immigration.
Oui.
Donc nous sommes responsables de ce premier chaos.
Alors ce que vous dites, c'est que le régime de feu Muammar Kadhafi est un régime exemplaire, ce que vous dites.
Non, je ne dis pas qu'il était exemplaire, je dis
ouais.
que à l'époque de Kadhafi, le pays était un pays très moderne.
Ouais.
Chaque Libyen avait un emploi,
ouais.
chaque Libyen avait une situation professionnelle. Tout le monde vivait bien. Aujourd'hui, c'est le chaos, la misère
oui.
pour une grande partie de la population libyenne, parce que mmh. la guerre ne peut entraîner que ces conséquences-là, hélas.
Oui. Alors et, comment Oui. Allez-y.
Il faut l'avoir à l'esprit. Et la Libye joue un grand rôle sur le continent africain. Il ne faut jamais oublier tout ce que Kadhafi a fait pour le continent africain.
Oui.
Il ne faut pas oublier qu'il a toujours été défendu par le plus grand personnage que compte l'Afrique moderne, Nelson Mandela. Pourquoi
mmh.
Mandela ne le défendait pas par plaisir de le défendre. Mandela le défendait parce qu'il savait ce que Kadhafi avait fait pour lui et l'ANC. Et ce qu'il a laissé pour le continent africain.
Oui.
Voilà.
Mmh. Alors, Michel.
Un président français, pour se faire plaisir et montrer qu'il
ouais.
participait au moins à une révolution arabe,
ouais.
a lancé ce conflit absurde qui a entraîné la situation, le chaos dans lequel nous vivons aujourd'hui.
Mmh.
Et l'ONU, au lieu de mettre fin à ce chaos, l'a accentué et développé.
Ouais.
C'est quand même extraordinaire.
Mmh. Alors, justement, comment expliquez-vous alors que Fayez El-Sarraj s'est montré très critique à l'égard de l'émissaire spécial de l'ONU, Rassam Salamé ? Il s'est montré très critique et a notamment critiqué son rapport sur
oui.
justement la situation en Libye. Mmh.
C'est le maréchal Haftar qui a été très critique.
Mmh. Même Fayez El-Sarraj aussi. Même Fayez El-Sarraj.
Oui. Oui, mais Sarraj, ben oui, il est nommé par l'ONU, après il critique l'ONU. Hein. Ça vous montre la qualité du personnage, d'ailleurs. Mmh. Il n'est même pas reconnaissant à ceux qui l'ont mis en place.
D'accord. Alors, comment sortir de la crise, Michel Scarbonci? Parce que là, on voit qu'il y a...
C'est triste à dire. Moi, j'étais contre la guerre en 2011.
Oui.
Et j'étais en Libye en 2011, parce qu'ancien député, j'étais contre européen, j'étais contre cette guerre.
Oui.
Peu ont eu le courage de faire cela. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est triste à dire, mais il faut qu'il y ait un vainqueur. Il faut qu'il y ait un vainqueur. C'est-à-dire, pour mettre fin au chaos, il ne faut pas laisser faire les diplomates qui vont continuer à nous balader pendant encore 2, 3, 4 ans
oui.
et continuer à pourrir la situation.
Donc vous souhaitez la victoire du maréchal Haftar, en fait. Oui.
Voilà, bien sûr.
Oui.
C'est le seul homme qui peut, un, réunifier la Libye, deux, mettre en place un gouvernement véritable d'union nationale, trois, organiser des élections libres et sécurisées.
Oui.
Voilà.
Oui. Et pensez-vous qu'il le fera si, dans un scénario, il prend le pouvoir, vous avez des garanties qu'il le fera, qu'il installera vraiment un régime démocratique?
Pour avoir longuement parlé avec lui en 2016, 2017, 2018, je peux vous assurer que cet homme-là, il m'a dit, vous savez, c'est pas à mon âge, 74 ans, qu'on devient dictateur. Et donc, Haftar, il aurait pu gérer sa rente, c'est-à-dire cet homme... contrôle le croissant pétrolier.
Mmh.
Cet homme permet à la Libye, aujourd'hui, de faire 1 200 000 barils par jour.
Oui.
Il permet à la Libye, aujourd'hui, de recevoir en rente pétrolière plus de 200 millions de dollars par jour.
Oui.
Cet argent ne va pas au maréchal, alors que c'est lui qui sécurise les puits pétroliers. Cet argent va à Tripoli, chez M. Sarraj, à la Banque centrale. Le président de la Banque centrale a été destitué il y a 3 ans par l'Assemblée nationale libyenne. Et donc c'est M. Sarraj qui gère cet argent-là.
Mmh.
Il paye les milices, il paye tous les terroristes qui le soutiennent avec ça. C'est quand même absurde comme situation.
Mmh.
On est dans un cas surréaliste, complètement surréaliste.
Reste avec nous, nous allons prendre Dédé, bonjour.
Oui, allô. Bonjour.
Bonjour, on vous écoute.
J'écoute vos auditeurs, celui que vous avez invité à des analyses tellement justes de la situation en Libye, on se pose la question pourquoi c'est pas évident pour tout le monde, quoi.
Oui.
Parce que Kadhafi, si on l'a fait partir, c'est simplement parce qu'il y avait quelque chose d'intéressant en Libye. Et la chose la plus intéressante en Libye, c'était le pétrole.
Mmh.
Et le pétrole est devenu un élément de gouvernance mondiale.
Une gouvernance mondiale
entre les mains des États-Unis qui, par le pétrole, impose le dollar à tout le monde.
Mmh. Oui, d'accord.
Kadhafi est un gênant, justement, à un moment donné, à cause de sa politique monétaire interne en Libye et la politique qu'il voulait proposer aux Africains, devient un homme dangereux pour les banquiers.
Oui.
Alors, il fallait le faire partir. Les banquiers ont financé Bernard-Henri Lévy, qui a mené une campagne des plus virulentes du monde qu'on n'a jamais vue, qui a pu, effectivement, avec Sarkozy, à qui on a donné l'ordre d'exécuter les ordres de faire partir Kadhafi, on l'a fait partir.
D'accord.
On a fait partir. Les banquiers ont réussi à faire partir Kadhafi.
D'accord, ce sont les banquiers pour vous. D'accord, oui.
Attendez. Il y a un auditeur qui a demandé tout à l'heure, entre Kadhafi et la situation actuelle, qu'est-ce qu'on choisirait?
Oui.
Mais moi, aveugle, ne connaissant rien dans le truc, je choisirais Kadhafi.
Oui.
Parce qu'il avait réussi à établir un ordre, à établir un vivre ensemble.
Oui.
Qui on peut critiquer quand on veut, si on veut. On peut critiquer.
Oui.
Mais au moins, j'aurais dit, à ce moment, maintenant, la Libye n'aurait pas connu ce chaos qu'elle connaît actuellement.
Voilà c'est votre avis, Dédé. Merci pour votre intervention. Alors, Michel Scarbonci, le gouvernement d'Union nationale reproche à la France de soutenir le maréchal Haftar. Alors, qu'en est-il exactement? Est-ce vrai, selon vous?
D'abord, ce gouvernement d'Union nationale n'est pas un gouvernement d'Union nationale.
C'est le nom qui lui est donné.
Il ne représente que les personnalités de la Tripolitaine et de Misrata, c'est tout.
Mmh.
Donc c'est votre avis,
mais pour d'autres, il représente le gouvernement, gouvernement d'Union nationale, reconnu par la communauté internationale. Enfin, ce n'est pas moi qui l'invente.
Il est reconnu par l'institution ONU, la Chine, les États-Unis, la Russie soutiennent le maréchal Haftar. Donc la France, quoi qu'on en dise, soutient aussi le maréchal. Monsieur Le Drian a compris très vite que la seule personnalité qui pouvait mettre de l'ordre en Libye et qui pouvait réunifier le pays était le maréchal. Voilà la réalité.
Mais la France ne soutient pas officiellement.
Non,
on aurait entendu.
Puisque, par définition, les pays de l'Union européenne sont toujours pour les solutions pacifiques et non pas les solutions militaires. Mmh. Donc, on est toujours sur cette position très diplomatique, mais la réalité des faits, c'est qu'à un moment donné, tout le monde a compris que la solution militaire était le dernier recours. Je voudrais introduire une réflexion pour vos auditeurs, oui. Vous-même, sur la situation libyenne. Il faut toujours chercher pourquoi l'ONU a-t-elle nommé M. Sarraj. Dites-vous bien que l'ONU a intérêt à ce que celui qui gouverne la Libye ne soit pas un homme fort. Pourquoi ? Imaginez le jour où si le maréchal Haftar un jour est à la tête de la Libye, qu'est-ce qui va se passer ? Il va demander des comptes à l'ONU. N'oubliez pas que depuis 2011, c'est l'ONU qui gère les fonds libyens à l'étranger. 2 000 milliards de dollars.
Oui.
Un homme fort va demander la restitution de cet argent qui était dans les banques du monde occidental et même de pays d'Europe centrale.
Oui.
Bon, d'accord. Donc posez-vous la question.
Donc pour vous, l'ONU ne défend pas les intérêts du peuple libyen ?
Non, pas du tout. Pas du tout. Elle défend les intérêts de M. Sarraj, l'homme qu'elle a mis en place. Et comme cela arrive souvent dans l'histoire de l'ONU, hein, puisque l'histoire nous le prouve allègrement, elle se trompe. Elle a fait un mauvais choix, mais je pense qu'elle n'a pas fait ce mauvais choix par hasard. Voilà.
Nous avons en ligne Mamadou. Mamadou, bonjour.
Bonjour, monsieur Nadir.
Bonjour.
Excusez-moi, je vais aller très vite. Oui. Je voulais dire à votre invité que ça fait 2 fois qu'il vient sur ce plateau.
Oui, oui.
Il veut nous faire un lavage de cerveau. Qui va nous prendre pour des clous, nous fait. Ça, c'est un. Oui.
Juste une petite parenthèse, parce que ça fait 2 fois qu'on le dit. C'est difficile d'avoir des représentants du gouvernement d'union nationale libyenne à intervenir sur Africa Radio.
Je n'ai pas fini.
Voilà. Non, mais je voulais préciser quand même cette remarque. Merci.
S'il vous plaît.
Oui.
Allô.
Oui, on vous écoute, Mamadou.
Tout à l'heure, il parlait, il faudrait qu'il y ait un vainqueur. Il peut avoir un vainqueur dans les urnes.
Oui.
Ils peuvent aller aux élections.
Oui.
L'ONU peut organiser des élections. S'il a confiance à son candidat,
oui.
Il peut gagner par les urnes.
Oui.
Et pourquoi il veut forcément que les gens s'entretuent pour qu'il y ait un vainqueur? Il ne faudrait pas qu'ils prennent des gens à un moment donné pour des bétails quand même. Il faudrait qu'ils respectent les gens.
Oui.
Nous, on a des frais qui sont vendus nuit et jour en Libye.
Oui.
Et il reconnaît que c'est l'État français ou bien le gouvernement français qui a fait le chaos en Libye. Pourquoi il ne siège pas à l'Assemblée nationale pour faire voir ça au monde entier? Il parle de 2 000 milliards. C'est lui qui court derrière les 2 000 milliards. Parce que ce délinquant qu'il supporte, le jour où il va passer au pouvoir, c'est eux qui vont passer comme conseiller général.
Très bien.
Merci, c'est ce que j'avais à dire.
Merci Mamadou pour votre intervention. Alors Michel Scarbonci...
Pour organiser des élections, il faut sécuriser un pays. Vous ne pouvez pas organiser des élections si vous ne pouvez pas sécuriser les bureaux de vote.
Pour vous, il est difficile d'organiser des élections dans l'état actuel des choses. On ne peut pas le faire.
Sans sécuriser des bureaux de vote, donc ça veut dire qu'il faut d'abord qu'il y ait quelqu'un qui sécurise l'ensemble du pays, et après vous organisez des élections. Après avoir mis en place un gouvernement d'union nationale qui va lui-même organiser les élections. Ce n'est pas le maréchal qui va les organiser. C'est un gouvernement d'union nationale rassemblant toutes les parties libyennes et toutes les régions libyennes qui va organiser ces élections sous l'égide de l'Union européenne et de l'ONU. Voilà, ça oui. Mais pour ça, il faut sécuriser. Comment voulez-vous sécuriser une élection dans des bureaux de vote contrôlés par les islamistes?
Alors, l'ONU, par l'intermédiaire de Bintou Kara, secrétaire général adjointe pour l'Afrique, a déclaré que l'ONU n'avait pas l'intention de quitter la Libye et qu'elle demeurait aux côtés du peuple libyen.
Oui, c'est bien, ça, c'est une déclaration. Faire des discours, c'est toujours facile. Mais bien sûr, l'ONU ne peut pas maintenant annoncer qu'elle se retire parce que ça serait signer son échec officiellement. Donc, elle ne peut pas. Elle perdrait beaucoup de crédit. Donc, elle va continuer avec M. Gassam Salamé de chercher une solution de cesser le feu ou d'arrêt des combats.
Oui.
Mais il n'y aura pas de cesser le feu, il n'y aura pas d'arrêt des combats.
D'accord.
Voilà, il faut en finir une bonne fois pour toutes, comme on dit.
Ça, c'est votre point de vue, Michel Scarbonci. Merci d'être intervenu sur l'antenne d'Africa Radio. Merci aux auditeurs pour vos interventions. Et merci à Maxime qui réalisait ce JDA. Rendez-vous demain pour une nouvelle édition du journal des auditeurs sur Africa Radio.